Alors, tournons ensemble dans Jacques 5. Avant de lire Jacques chapitre 5, on va regarder les versets 1 à 12 ce matin. Juste se rappeler que les versets 13 à 17 du chapitre 4, et je reviens toujours à une chose comme quoi que il n'y a pas de séparation dans l'épître de Jacques, la lettre de Jacques. C'est tout un morceau et ça se suit. C'est pas Jacques qui arrête à un moment donné, puis qui s'en va en vacances dans 3 semaines, puis qui continue. C'est tout un message d'un bout à l'autre, et ça se suit. Et quand il parle dans les versets 1 à 13, de l'orgueil de garder Dieu en dehors de nos décisions, OK? Il parle, verset 16, d'une présomption, il parle de gloriole aussi. Et au verset 17, il dit, « Ce que tu sais et que tu ne le fais pas, c'est un péché. » Et ensuite, après, il arrive dans ce qu'on appelle le chapitre 5, et il dit, « À vous maintenant, les riches. » Il y a une suite logique entre ces versets-là, précédents du chapitre 4, les derniers versets, et les premiers versets du chapitre 5 de Jacques. Lisons ensemble, on va lire des versets 1 à 6 pour commencer. « Alors à vous maintenant, les riches, pleurez à grand prix à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, ou ils ont des teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste, il ne vous résiste pas. » Pas très joyeux, ces quelques versets qu'on vient de dire là. On va essayer de décortiquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Et qu'est-ce que ça n'enseigne pas aussi? À vous maintenant les riches. Presque comme s'il disait, c'est votre temps, vous allez passer au cash. C'est ça que ça veut dire. À vous maintenant les riches. Je vais vous organiser, là. C'est votre temps. La parole de Dieu est claire par rapport aux richesses. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport aux richesses?
On ne doit pas s'attacher à l'argent, parce que sans ça, on va devenir ennemi de Dieu.
On ne doit pas s'attacher à l'argent, sinon on devient ennemi de Dieu. Où on a vu ça? Où on aimera un et haïra l'autre, OK? Donc, plusieurs choses qui sont enseignées. C'est vrai que la richesse appartient à Dieu. C'est vrai que Dieu donne et Dieu reprend. Avec qui on le voit facilement? Avec Job. Dieu a donné, Dieu a permis que Job perde tout. Et Dieu, après, a béni Job. C'est vrai que la richesse appartient à l'Éternel, mais c'est surtout vrai qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Mammon, qui est le dieu de l'argent, et Dieu. Ou on aimera l'un et haïra l'autre, ou l'inverse. Est-ce que ça veut dire que la richesse, c'est mauvais?
Non, ça veut dire que notre cœur doit pas être attaché à la richesse. C'est pas interdit d'avoir les biens.
Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Donc si on est riche, c'est la richesse, on pense que la richesse vient apaiser nos inquiétudes, là il y a un problème.
Quel exemple de ce que Célestin vient de dire, nous voyons dans les évangiles?
Le jeune homme
riche va voir Jésus, lui dit, moi, je veux te suivre, je jeûne 3 fois la semaine, je fais ci, je fais ça, je suis bon, je suis fin, je suis gentil, je suis tout ça, je paye mes impôts, tout est gentil, fin. Et Jésus lui dit, t'es un menteur, t'aimes l'argent. C'est ça qu'il dit? Non, il lui dit d'une manière beaucoup plus subtile. Il lui dit, c'est bien. Wow, il le félicite. Il dit, maintenant, vends tout ce que t'as et donne-le aux pauvres. On va aller dire ça à M. Trump. Il est à la mode en ce moment, c'est pour ça que je dis ça. Là, hein? J'aurais pu dire Rothschild ou un autre, ça, il y en a des fortunes. Hein? Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et Jésus a mis le doigt sur le jeune homme riche, où est son cœur? Et il est parti tout triste, mais il n'est pas parti tout triste pour vendre tout ce qu'il a. On n'entend plus parler. Donc, il a choisi qui était, qui est son Dieu. Hein? Donc, c'est ça le problème de la richesse. C'est pas que la richesse, c'est mal. Quoi qu'on va développer les richesses un peu dans ce passage-là, mais il faut faire attention. Hein? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et dans notre société nord-américaine, notre société de consommation, nous vendons la richesse. Et demandez à nos frères et sœurs qui arrivent de pays beaucoup moins riches si nous sommes riches à Montréal, ils vont vous le dire. Nous sommes riches, sauf que nous voulons être plus riches, toujours plus. On m'inclus, hein. Nous ne sommes jamais satisfaits et la société, la télévision, le Publisac, tout ça, là, nous encourage à dépenser et à consommer plus, même à crédit, même à crédit. Tout est dans cette direction-là de consommation, de manière à ce qu'on acquiert plus. Puis pour ceux qui sont un peu plus âgés, on a tous passé par là, on a tous eu 20 ans, 30 ans. On s'en rappelle, notre première voiture, notre deuxième voiture. Le problème, c'est l'envie. Dès qu'on l'a en main, on est content, hein? Mais ce bonheur-là est éphémère, temporaire. Donc, c'est intéressant de voir la richesse comme ça. On va développer. Alors, c'est intéressant dans nos sociétés, la perception qu'on a de l'argent, des richesses, des possessions. C'est pas nécessairement péché d'être riche, et nous le sommes à différents niveaux. Dans mon expérience, les gens que j'ai rencontrés, plus ils étaient riches, quand je dis riches, avec beaucoup de zéros avant le point dans leur compte en banque, plus ces gens-là voulaient encore des zéros avant le point, et plus ils étaient cheap, généralement. Pas tout le temps, mais c'est dans mon expérience. Et j'en ai rencontré, j'ai côtoyé des gens très riches. J'ai été à un party de Dairy Queen, accompagné Dairy Queen avec le principal actionnaire de Dairy Queen. C'était le plus cheap de la gang. Tous ceux qui sont venus et qui ont apporté des cadeaux, parce que c'était une fête spéciale, c'était incroyable. J'en croyais pas mes yeux. Tout ça pour dire que l'envie, et c'est clair que plus les gens ont de l'argent, plus ils ont des craintes de perdre leur argent, plus ils en veulent plus. En tout cas, ce qui est mal, ce n'est pas les richesses, c'est comment on les acquiert et ce qu'on fait avec. Ça, c'est important. 1 Timothée 6:10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est pas la racine de tous les maux, c'est une des racines, hein. Mes parents, quand j'étais plus jeune, disaient, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. C'est la même chose, hein. Donc là, c'est l'argent, hein. Un peu plus loin, 1 Timothée, chapitre 6, verset 10.
Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et sont infligés à eux-mêmes bien des tourments.
OK. Donc l'argent, hein, nous écarte. Verset 11, je le lis. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, et ainsi de suite. » Puis là, vous allez avec moi au verset 17. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Donc, le verset 17 dit comme quoi que on recommande aux riches de ne pas mettre leur affection dans les richesses que Dieu donne. Pourquoi? Il nous donne des richesses, pourquoi? Pour qu'on en jouisse. Qu'on ait une auto neuve, il n'y a pas de mal. Il veut qu'on en jouisse. Et quoi d'autre? Faire du bien.
Le verset 18, il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie.
Alors, on va rester avec mon auto, puis après je vais aller un peu plus loin. J'ai une auto neuve pour que j'en jouisse. Le Seigneur me permet que j'achète une auto neuve pour que j'en jouisse et pour que j'en fasse jouir les autres aussi. La libéralité, il y a un besoin dans l'Église. Il y a un besoin dans l'Église, dans notre association. Je vais aller plus loin, vu que j'ai deux patrons, moi je vais aller plus loin. Dans notre association, quelqu'un va faire un chèque, faire un don de 150 $. Pour lui, c'est vraiment un, entre guillemets, sacrifice, vous comprenez? Ça touche de son nécessaire. Un de nos vieux prédicateurs au Québec, le monsieur Jacques Alexanian, il disait, « La foi est réelle quand elle touche le portefeuille. » Marcel Cotton a dit la même chose. Maintenant, un riche, rien là, 150 pièces, c'est le pourboire qu'il laisse quand il va au restaurant. Si il ne fait pas plus qu'un moins riche, beaucoup moins riche, il n'a pas compris ce que c'est la libéralité. La libéralité, c'est donner avec joie. Ça nous a pris du temps, ma femme et moi, coup de jeune marié, de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, la libéralité. Vous savez, quand on donne, le Seigneur ne permettra pas qu'on arrive en bas de notre budget puis qu'on soit dans le trou. Mais si on met notre budget, puis là, on met la maison là, toc, 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 toc. Puis là, on met mes offrandes à l'église. Vous avez une chose, il restera rien. Parce que faut que j'aille faire du ski, faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça, faut que j'aille au restaurant, mais tout ça, là. Mais il reste plus rien si on fait l'inverse. Puis qu'on met Christ en premier dans notre vie, OK? Il va en rester en bas. Il en reste tout le temps en bas. Et Dieu donne au-delà de nos besoins. La libéralité, donner de notre nécessaire en confiance que le Seigneur va répondre à nos besoins. Dans Amos, il dit, « Écoutez, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux. » Dans Job, dans Jérémie, dans Michée, dans Malachie, tous ces passages-là, tous ces livres-là, condamne le riche qui vit aux dépens du pauvre. Et c'est ça que Jacques adresse ici. Et c'est ça qu'il dit quand il dit « À vous les riches », Jacques parle à ceux qui sont dans l'Église. Et je me détache de certains commentaires, en particulier de M. MacArthur. Je pense qu'il s'adresse à des chrétiens dans l'Église. Il y a des chrétiens qui vivent spirituellement, et il y a des enfants de Dieu qui, malheureusement, n'ont pas compris encore toute la régénération dans leur vie et ils vivent d'une manière humaine. Quel mot qu'on emploie dans la parole de Dieu? Comme les païens, charnel. Est-ce que nous autres ici, là, qui sommes des super saints ici, là, est-ce que nous vivons d'une manière charnelle? C'est ça que j'ai compris, hein? C'est ça que tu as dit encore. Nous sommes tentés par Satan et il est rusé. Soyons à l'écoute du Seigneur. Et c'est ça que, passage précédent, okay, juste avant, les versets qu'on a vus avant, n'oublions pas de demander à Dieu dans certaines choses dans nos vies. Il n'y a pas de question stupide quand on pose une question à Dieu. Il n'y a que des gens stupides qui ne posent pas de questions stupides, que l'on pense. Quand on dit une chose... Cherchons à la volonté de Dieu. Dieu, Seigneur, dirige-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Veux-tu que j'aille dans telle ville faire du commerce, comme on voit dans le passage avant? Rechercher la volonté de Dieu. Dieu voulant. Et souvent, quand on fait cela, Dieu met des barrières. Parce que Dieu ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On défonce les barrières, on passe par-dessus les clôtures, on défonce les portes. Marchons avec des portes ouvertes, portes fermées. Dieu voulant. À vous les riches. Verset, dans le chapitre 13, on a vu ça, il trahit les riches, démontre dans les versets, les derniers versets du chapitre 4, on voit clairement comme quoi qu'ils oublient de demander à Dieu qu'est-ce qu'ils doivent faire. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'on est un souffle, un brin d'herbe qui est emporté par le vent. Ça passe comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Anita est tombée de l'escabeau, elle s'est abîmée un genou. Elle pourrait tomber de l'escabeau, puis elle serait morte. On ne sait pas ce qui se passe. Hein? On ne sait pas. Donc, soyons des gens qui respectent Dieu, qui est en contrôle de tout, et Dieu voulant. On fait des projets. Tout le monde fait des projets. Et c'est correct. La parole de Dieu nous dit de nous asseoir et de compter quand on fait des projets. C'est correct de faire des projets. Ce qui n'est pas correct, c'est mettre Dieu en dehors de nos projets. On continue. Dans le passage qu'on voit... Il dit, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Pleurez à grands cris, ça peut se dire autrement, ça signifie sangloter très fort, hurlement, cri par rapport à une douleur, et ce sont exactement les chagrins qui devraient accompagner la repentance. Quand on lit dans Acte 2, après que Pierre a prêché et que les Juifs disent, hommes frères, que ferons-nous? Il y avait du chagrin, de la tristesse et une repentance. Je ne suis pas quelqu'un qui a un chagrin, un sanglot très fort, un hurlement et un cri face à mon péché. Malheureusement, je devrais pleurer sur mon péché. Et c'est ça qu'il dit dans cette chose-là. Repentez-vous de votre mauvaise attitude. Et il parle aux riches et il le décrit par après. L'attitude. Les malheurs vont venir sur vous. Le mot malheur est employé ici comme le vrai mot malheur dans Romains chapitre 3, verset 16. Allons dans Romains ensemble. Romains 3, 16. Au verset 9 de Romains, du chapitre 3, il dit « Quoi donc sommes-nous supérieurs ? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Et selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, etc., etc., etc. » Il parle de notre condition de pécheur. Hein? Notre gosier est un sépulcre ouvert, etc. Verset 16, « Ils ont la destruction et le malheur sont sur le chemin. » Le mot « malheur » qui est employé dans Jacques, c'est le même malheur qui est là. De quel malheur est-il question? Pour mettre Dieu dans sa vie, de quel malheur? Oui. Quel malheur peut-il être question ou est-il question? Mais si je veux le prendre comme quoi que c'est adressé à des frères, donc des enfants de Dieu, il y en a qui ont pleuré amèrement lorsqu'ils perdent tout. Vous savez que le plus haut taux de suicide qu'il y a eu parmi les gens fortunés a eu lieu dans les années 30 au crash. Les gens mettaient leur confiance dans leur fortune et en l'espace de quelques jours, voire quelques semaines, ils ont tout perdu. Ils se sont pendus. Plusieurs se sont pendus. Ils ne pouvaient concevoir qu'ils perdraient tout. Intéressant de voir. Qu'est-ce qu'on va faire si nous perdons tout? Allons-nous aller nous pendre, comme ces gens-là, comme Judas, ou bien allons-nous nous arracher les cheveux qui nous restent sur la tête comme Job? C'est à peu près ça que Job faisait. Est-ce que Job est allé se pendre? Non. Est-ce que Job a maudit Dieu?
Non.
Non. Est-ce que Job s'est posé des questions?
Oui.
Oui. Il comprenait pas, puis il le disait à Dieu. Et je pense que lorsque nous prions, lorsque nous parlons avec Dieu, il s'attend à avoir un échange avec nous. Et il n'y a pas de mal à dire, Seigneur, je comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Est-ce que Dieu a expliqué à Job? En partie à la fin, en partie. Il lui a dit, tu es, en gros, là, je simplifie les mots, il lui a dit, tu es la créature, je suis le créateur. Il n'en a pas dit beaucoup plus que ça. Sauf qu'il a restauré Job par la suite. Il a même eu des enfants et il a vécu une longue vie. Malgré qu'il était magané, malade, tout ça. Donc, c'est intéressant de voir qu'il a pris soin de Job. Est-ce que Job a su à ce moment-là ce qui s'était vraiment passé entre Dieu et Satan et Dieu à ce moment-là? La lutte dans les lieux célestes qui s'était passée? Non, il l'a pas su. Probablement que nous, on l'a su plus que lui. OK? Avant sa mort. C'est intéressant de voir cela. Bon, je dis que non, il l'a pas su. Je peux pas être certain, là, mais quand même, c'est intéressant. Donc, ayons une bonne conversation avec Dieu. On continue. Les richesses amassées, ici, on va voir les malheurs qui vont se déployer sur eux. Et on va voir qu'il y a eu des richesses amassées inutilement. Versets 2 et 3. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont mités. Dans certaines traductions, c'est marqué « rongé par la teigne ». Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les moyens que le Seigneur nous donne, riches ou moins riches? On doit les mettre au service des autres, les gérer. Donc, dans bien gérer, je dirais pourvoir à notre famille. Nous devons pourvoir au bien de nos épouses, enfants, pourvoir au bien de notre famille. Soutenir des œuvres en commençant par notre Église. Okay, donc, on soutient les œuvres à l'extérieur, qu'on choisit, bien entendu, les bonnes œuvres. Okay? Choisir l'Église, soutenir le ministère, etc. Et continuons. Les missionnaires, les ouvriers, exactement. Il y a de quoi dépenser notre argent et pas nous faire arnaquer, et là, je vais être méchant, par les émissions à la télévision, sans nommer de nom, qui vont chercher nos sentiments pour aller chercher notre argent. Mettons-nous à genoux, réfléchissons, dépensons d'une manière intelligente. Un homme d'affaires au Canada qui, lui, s'est donné comme mission en commençant, en étant en affaires. C'est pas un homme qui a la parole facile. Et il a décidé de soutenir le ministère au Québec. Il ne dit pas, il ne parle pas un mot de français. Mais il a soutenu l'œuvre au Québec depuis les années 50, tout le temps. Aujourd'hui, il est beaucoup plus riche. Sa compagnie a prospéré. Avant, il donnait des petits montants. Maintenant, il donne des montants astronomiques au Québec, pour l'œuvre au Québec. C'est son but. Lorsqu'il décédera, ce monsieur-là, c'est pas des centaines de milliers de dollars qui vont venir pour le Québec et les ouvriers, c'est des millions de dollars. Ben, c'est un très bon livre, si vous voulez lire. Ça, c'est dans les années, fin des années 40, début des années 50, après la guerre. Ça, c'est un chrétien qui était en affaires au Québec. Et ça, c'est différent. Lui, il a commencé à travailler dans la machinerie lourde. Il a dit, Seigneur, si je commence, il dit, tout ce que je vais gagner, je donnerai 10 %. Et tranquillement, il a augmenté. Et avec, au fur et à mesure que la compagnie prenait de l'expansion, il a terminé, il donnait 90 et il gardait 10. C'est un livre qui existe en français. Je vais vous le trouver. Il faudrait que je le trouve vite, hein. Oui, oui, mais ça, c'est un, moi, je parlais d'un autre, là. Alors, il y en a. Ça veut pas dire que nous devons donner 90 %. J'ai pas dit ça. OK? La parole de Dieu ne dit pas. Elle nous dit, le premier jour de la semaine, de nous mettre à genoux, de chercher qu'est-ce que le Seigneur nous met à cœur. Alors, attention. On peut avoir le cœur froid. Faut faire attention. Puis on regarde ça, puis on décide ensemble. Bien entendu, selon notre prospérité. T'as une famille à faire vivre, tu gagnes 25 000 $ par année, là. Écoute bien, là, t'as 4 enfants, une épouse, etc., là. Il faut que tu sois réaliste. Faut que tu fasses vivre ta famille. Je vais devoir rendre des comptes comment j'ai géré mon foyer. On continue. Donc, on doit utiliser l'argent pour ça. Mais là, il parle que les richesses, votre richesse, elle est pourrie, votre vêtement est mité. Intéressant que ça suit avant ceux qui ont dit, on fait des affaires, on va aller là. Quelles étaient les affaires qu'ils faisaient dans ce temps-là? Alors, c'était beaucoup d'agriculture, du vêtement, tout ça. Puis là, il parle de l'agriculture, votre richesse est pourrie. Rappelez-vous quand on dit, hey, j'ai eu beaucoup de grains cette année. J'ai ramassé des grains, mes greniers sont trop petits. Je vais les mettre à terre, je vais en construire des plus grands. Et après, je vais m'asseoir sur mon steak, puis je vais dire, waouh, je peux me reposer. Qu'est-ce que Dieu dit? Imbécile. C'est ça que ça veut dire insensé, hein? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. T'as bien beau avoir gagné le 55 millions qui est à la 649, plus le 10 millions de je sais pas trop quoi qui vont ensemble, là. T'as bien beau gagner les 65 millions, ça te donnera rien. Tu vas mourir cette nuit. C'est ça que ça veut dire. Ce que nous avons, les réserves de nourriture sont pourries. Mais ça va plus loin. Il dit que votre or et votre argent sont rouillés. Bon, alors, je savais pas que l'or et l'argent rouillent. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais la rouille s'élève en témoignage contre toi, dévorera votre chair comme un feu. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, ça, cette sorte de condamnation? Mais c'est certain que quand il parle d'un témoignage contre vous qui dévorera votre chair comme un feu, il y a une sorte de condamnation, là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est un témoignage comme quoi que toutes les choses malhonnêtes que vous avez faites vont témoigner contre vous au point de montrer que vous n'avez pas Christ dans votre vie. Vous n'avez pas les œuvres de la foi que Jacques parle, vous les riches. C'est ça qu'il veut dire. Et là, il parle de feu, hein. Il parle des derniers jours aussi, hein. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Il y a une sorte de condamnation. Et le témoignage continue, parce que le témoignage continue au verset 4. Voici les choses qui rient contre vous, hein. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles de Dieu. Le témoignage contre les mauvais riches, hein. Donc, autant de mots et d'expressions qui démontrent que le riche ou le mauvais riche a un mauvais cœur ou un cœur qui n'a pas été circoncis, comme on l'emploie, qui n'a pas été changé. C'est sûr que quand Christ vient dans nos vies, quand on réalise la condamnation du péché, il y a un changement. Entre guillemets, il devrait y avoir un changement. Il devrait y avoir un cœur qui voit les besoins des autres. Il devrait y avoir un cœur libéral. Il devrait y avoir un cœur comme les changements. C'est Charles Dickens qui a écrit Scrooge. C'est ça, c'est Dickens. Alors, vous voyez ça à Noël chaque année. Un homme riche et son cœur est pourri, dur, sans avare. Chien, hein? On le voit clairement. Et d'un certain sens, avec les 7 fantômes, je sais plus trop où il y en a, là. 3? On a assez 3. Dans un certain sens, si on fait une petite analogie, Dieu se révèle à lui et lui montre son cœur. Et quand Dieu lui montre son cœur, que se passe-t-il? Il y a un changement. Et Scrooge, ses vices, ses travers, changent complètement. C'est ça qu'on appelle... Je veux pas le dire dans Scrooge, là, parce que c'est quand même un livre de Charles Dickens, mais c'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. qui peut faire le renouvellement d'une intelligence? Le Saint-Esprit. Donc, si les riches ont vraiment le Saint-Esprit en eux, ils ne laissent pas beaucoup de place au Saint-Esprit. Est-ce que nous laissons de la place au Saint-Esprit? Toute la place? Hein, on a besoin d'apprendre des choses. On continue. Alors, on voit des richesses qui sont injustement acquises, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné dans vos champs et dont vous les avez frustrés, cris, les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ils ne payent pas ces ouvriers. Wow! Loin d'avoir manqué à aider le pauvre, ils volent le pauvre. Mais ça n'existe pas dans notre société, ça, aujourd'hui. Ah, ouais? Je vous pose la question, ça n'existe pas dans notre société. Est-ce que nous pouvons changer notre société? Mais ça commence par nous. Si nous sommes, comme Matthieu vient de dire, la lumière du monde ou le sel de la terre, mais qu'on met notre lumière en dessous du lit ou qu'on met le sel puis qu'il n'y a plus de saveur, le sel, il n'y aura aucun changement dans le monde. Est-ce qu'il y a eu un changement après, tout de suite après que le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte? Y a-t-il eu un changement à Jérusalem? Si vous n'êtes pas convaincus, tournez avec moi dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 46. On va lire 46-47. On parle de l'Église de Jérusalem, tous les nouveaux chrétiens. Verset 46, « Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Y a-t-il eu un changement à Jérusalem? Définitivement. Il y a eu une influence sur tout le peuple. Pas juste sur l'Église, sur tout le peuple. Est-ce qu'il y a une influence? Il doit y avoir une influence autour de nous autres, hein? Alors, loin d'avoir aidé le pauvre, il le vole. Et dans certains passages, n'oublions pas que Jacques s'adresse à qui? Jacques, chapitre 1. Il écrit aux chrétiens juifs, les 12 tribus, dans la dispersion. Il écrit aux juifs, les 12 tribus, nés de nouveau, aux chrétiens juifs. Donc, c'est important quand on parle à des juifs de parler de choses que les juifs comprennent. Si je vais en France, OK, comme prédicateur en France, on m'avait mis en garde on m'a invité à donner un témoignage n'importe quoi dans une des églises que je visitais, de faire attention, on allait reprendre mon français. On m'avait mis en garde. Parce qu'ils comprennent pas les mots qu'on emploie ensemble ou ils veulent pas les comprendre, un des deux. Prenez ce que vous voulez. Et c'est l'inverse ici, même si on parle soi-disant la même langue. Jacques, il veut qu'ils comprennent. Et donc, il parle de choses que les Juifs comprennent. Dans Lévitique 19, n'y allez pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Puis ça, je vous en cite juste quelques-uns. Dans Deutéronome 24, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il en a besoin. Et ça, on peut voir ça dans Jérémie, dans Malachie, et ainsi de suite. C'est clair, net. Si tu es en moyen, tu dois prendre soin du pauvre et lui donner son salaire. Et là, dans le passage qu'on voit, le riche, entre guillemets, frère, ne donne pas son salaire, mais en plus, il le vole. On fait pas ça dans notre société. Mon frère Joël me disait, on a un frère dans le Seigneur qui vient de perdre sa job au gouvernement. Alors, il était au gouvernement sans être au gouvernement parce que le gouvernement l'employait comme travailleur autonome. Mais travailleur autonome, strictement pour lui, tu ne travailles pour personne d'autre. La loi interdit de faire cela. Un travailleur autonome peut travailler avec plusieurs clients. Il t'interdit de faire cela parce que quand il perd son client, il n'a plus de job. Puis vu qu'il est travailleur autonome, il n'a pas d'assurance chômage. Comprenez-vous? C'est notre gouvernement qui ne suit pas sa propre loi. Ça, c'est le gouvernement. Est-ce que les chrétiens, les enfants de Dieu, doivent faire cela? Non. Un enfant de Dieu profite du fait que le Seigneur le bénit pour bénir les autres. Prenons l'exemple de Boaz. Hein, pour ceux qui connaissent, vous irez lire dans Ruth. Okay? Que faisait Boaz avec ses moissonneurs? Il leur disait de laisser du grain pour ceux qui glanaient après le pot dont Ruth faisait partie, bien entendu. Il le trouvait bien à son goût après. OK, donc attention à cela. Les malheurs vont frapper le chrétien. Dieu, mais moi j'aime bien, c'est que Dieu entend. Hein, regardez, et ça c'est pour encourager ceux qui vivent des temps difficiles, hein, et dont vous les avez frustrés, crient et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles de qui? C'est pas marqué de Dieu. Moi, je serais un riche qui fait ça, j'aurais la chienne. C'est le Seigneur des armées. Quand il y a un Seigneur des armées, ça veut dire qu'il a des armées. Quand il envoie ses armées, c'est pas pour te faire un cadeau, généralement. Le Seigneur des armées, pour encourager ceux qui sont dans l'austérité. Verset 5. Vous avez vécu dans la volupté, dans les délices, hein? Vous êtes rassasiés, etc. C'est ça qu'il dit aux riches. Et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. J'aime comment c'est traduit dans la Sommeur nous dit, vous vous êtes engraissés comme les animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Alors, vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour de l'abattage. Intéressant de voir cela. Et tout ça au détriment du pauvre. L'égoïsme à son meilleur. Salomon a connu la richesse. Il dit dans Ecclésiaste chapitre 2, « Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. » C'est profond, ça. Okay, là. Qu'est-ce qu'il dit de ça, Salomon, plus tard dans sa vie? Ça sert à rien. C'est juste de la vanité et poursuite du vent. Est-ce que ça a été bon pour Salomon, les richesses? Il a manqué, même si c'est l'homme le plus sage. Salomon a manqué de sagesse dans la gestion de ses richesses et l'ont amené à pécher contre l'Éternel de différentes manières et même à être un objet de honte à l'Éternel. Hein? Des richesses aussi acquises impitoyablement. Vous avez condamné, verset 6, vous avez tué le juste sans qu'il vous résiste. Et pas juste aller jusqu'à voler, mais jusqu'à tuer. Dans quel sens on peut comprendre ça? Est-ce que ça veut dire que le riche est allé prendre le pauvre puis tordu le cou? Écoute bien, là, si t'as rien à manger, ben, tu finis par crever de faim. Et on le voit à travers le monde, là. J'ai écouté un reportage hier à la Semaine verte, comment la compagnie Monsanto est en train de mettre sa mainmise sur l'Afrique avec toutes sortes de belles publicités. Mais en réalité, il est en train de créer la dépendance des agriculteurs africains à Monsanto. Tu ne peux pas ressemer le grain que tu cultives, tu dois acheter d'autres grains à Monsanto. C'est terrible, ça. C'est terrible. Il n'y a qu'un pays qui se lève contre Monsanto. Lequel? La France et le Canada. Le Canada commence à se lever. Il commence à être temps. En tout cas, ça, c'est de la politique. Mais on peut faire crever des gens sans les tuer nous-mêmes, hein, de nos propres mains. Dans certains commentaires, ils vont même, quand ils utilisent le mot « vous avez condamné », ils parlent aussi du riche qui traîne le pauvre en cour pour différentes raisons, sachant que le pauvre ne peut pas répondre, ne peut pas se défendre en cour, et qu'on considère toujours monsieur le riche, qui lui a des places auprès des gens importants, plus importants, puis on floche le pauvre et on condamne le pauvre. Ils voient ça comme ça aussi. Dans les chapitres, dans les versets 7 à 11, on change un petit peu de registre. Et là, je vais vous poser une question après qu'on aura lu les versets 7 à 11. Qui va nous lire les versets 7 à 11 bien fort?
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.
Quand il dit « prenez donc patience », à qui Jacques s'adresse-t-il? Aux riches ou aux pauvres? Aux pauvres. Oui? OK. Alors, je vais me faire l'avocat des riches. Pourtant, il dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu des pluies de la première et de l'arrière-saison. Il parle d'un cultivateur qui, lui, prend son temps pour récolter sa récolte, ce qu'il a semé. Est-ce que c'est le pauvre, est-ce que c'est le riche? Ça peut être les deux. C'est sûr que l'encouragement, parce que c'est marqué plusieurs fois frère, ça s'adresse peut-être un peu plus à ceux qui souffrent que ceux qui sont riches. Mais ça peut être une exhortation aux riches aussi, là. Prenez votre temps pour ramasser. Attendez, Dieu va vous bénir si vous prenez le temps de ça. OK? Si vous faites toutes ces recommandations qu'il y a là-dedans, je vais vous bénir. Et on le lit dans Malachie chapitre 3, le troisième chapitre. Oh, ben, tout le livre de Malachie. Dieu parle par Malachie, se plaint d'Israël, des rois, des sacrificateurs, des principaux, des leaders d'Israël. Vous êtes une gang de rapaces, gang de bandits. Vous volez tout le monde et vous me volez. Ça, c'est Malachie. Je vous ai résumé Malachie. Il y a peut-être plus de nuances que cela, là, mais c'est à peu près Malachie. Et on voit très clairement comme quoi que attendez, puis faites ce que je vous ai demandé, apportez vos dîmes, apportez vos offrandes, prenez soin, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, etc., etc., chapitre 3. Il s'adresse aux riches dans Malachie, mais il prend soin des pauvres. Je pense que comme c'est les saints, ça peut s'adresser aux deux. Et il dit, soyez donc patients. Pourquoi? Prenez donc patience, frère. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Attendez. Soyez patients. Anticipons le retour du Seigneur. Même le mot patient, selon ce qu'il nous dit en grec, devrait être traduit, soyez lents à la colère. Est-ce que nous sommes lents à la colère ou que, si vous êtes comme moi, on appelle ça avoir des short fuse, une fuse, une mèche courte en français, là. Soyez patients. Anticipons le retour du Seigneur. Dans le passage qu'on vient de lire, trois fois, Jacques fait allusion à la grande espérance du croyant. Verset 7, verset 8, verset 9. Trois fois, il le souligne. Au verset 9, il l'appuie un peu plus, hein. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez point jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Oups! C'est plus juste l'avènement du Seigneur. C'est l'avènement du juge. Attention! Dieu, là, il s'adresse peut-être plus aux pauvres. Ne tire pas vengeance. Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je vais vous venger, je vais venger et je vais rétribuer aussi. Donc, c'est pas à vous de venger. Et puis, si on prend la récompense maintenant, ben tout bas, tu n'en auras pas une autre après. Donc, c'est la parole de Dieu simplifiée, je vous dis, par rapport à ça. Dans le temps de Malachie, à ce moment-là, pas de labour, sécheresse, disette, etc. Pourquoi? Pas de pluie. Puis, des sauterelles. Et quand on lit Malachie 3, on parle pas juste de bénédiction, là, quand il dit, voyez, si je vous ouvrirai pas les écluses des cieux. Il parle de pluie. Il parle de sauterelles. Il dit, je vais enlever tout ça, je vais vous bénir et vous permettre de cultiver pour que vous puissiez jouir de votre travail. C'est plutôt ça que Malachie dit. Mais c'est sûr qu'il parle d'agriculture là aussi. Écoute, il parlera pas d'agriculture pour nous. À moins que je ne sache pas, il n'y a pas de cultivateurs ici. Okay, là? On est des gens qui travaillons dans des domaines séculiers à Montréal. Mais on a besoin d'une job. Et ça, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas perdu sa job. Quand tu perds ton travail et puis que tu épuises ton chômage, et là, tu arrives puis il dit, il me reste plus que 2 semaines. Après, ça va être quoi? Le bien-être social. Peut-être c'est parce qu'on aurait peut-être dû au début demander au Seigneur de nous aider à nous trouver une job. Et le Seigneur répond souvent à la dernière minute. Pourquoi? Il éprouve notre foi. Dieu a dit qu'il prendrait soin de ses enfants. Est-ce qu'il va prendre soin de ses enfants? Est-ce qu'on croit ça seulement quand ça va bien? Il faut qu'on le croie aussi quand ça va moins bien. Hein? OK, donc on voit, là, anticipons le retour du Seigneur, soyons conscients que Jésus revient bientôt, et il revient bientôt comme un juge. En attendant, ayez une bonne conduite les uns envers les autres. Et puis après, il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Sommeur dit, ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres. Ça n'existe pas. Dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de médisants, il n'y a pas de murmures. Tout le monde s'aime. J'ai raison? En réalité, dans l'Église de Christ, il ne devrait pas y avoir de médisance. Pas de chialage. Tout le monde devrait s'aimer. Donc, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Et sans l'aide du Saint-Esprit dans nos vies, là, je ne peux pas aimer ma femme, je ne peux pas aimer les autres, tu ne peux pas aimer ton époux, aimer ton épouse et aimer les autres. C'est impossible parce qu'on est tous aussi mauvais les uns que les autres. Et puis, il y en a qui... C'est facile d'aimer quelqu'un d'aimable. Vous êtes d'accord? C'est facile. Mais le Seigneur nous demande d'aimer les uns les autres. Alors, pas toujours les mêmes uns, comme je dis des fois, puis pas toujours les mêmes autres, tous les uns des autres. Donc, qu'est-ce que je vais faire par rapport à celui-là, là, qui est pas aimable ou qui est difficile à aimer? Qu'est-ce que je vais faire? Prier quoi? Seigneur, donne-moi de l'amour pour lui. J'ai du mal à y voir la face. OK? Faut confesser notre péché. C'est correct, il n'y a pas de mal. Peut-être qu'il y a des raisons pour ça que j'ai du mal à aimer la, y voir la face. T'sais. Seigneur, donne-moi de l'amour pour lui. Aide-moi à lui dire quand il marche croche, avec amour, douceur. Il y a bien des manières de dire quelque chose. Hein? On peut envoyer promener quelqu'un de bien des manières. Puis on peut envoyer promener quelqu'un et lui dire qu'il y a telle chose dans sa vie, au point qu'il va le comprendre, puis il va voir l'amour, puis il va changer parce qu'on lui a dit. Donc tout ça, on doit le faire. Un peu plus loin, on continue. Verset 12. « Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Qui va me donner le résumé de ce verset après que je vous aurai lu le résumé de notre société par M. MacArthur? Très, très intéressant. « Les hommes déchus sont fondamentalement des menteurs invétérés. Les enfants mentent à leurs parents, les parents mentent à leurs enfants, les maris mentent à leurs épouses, les épouses mentent à leurs maris, les employés mentent à leur employeur, qui à leur tour leur mentent et mentent souvent au public. Les politiciens mentent pour se faire élire et continuent à mentir une fois qu'ils sont élus. Les citoyens mentent au gouvernement, peut-être particulièrement plus dans le temps des déclarations d'impôts. Les éducateurs mentent, les scientifiques mentent, les membres des médias mentent. Notre société repose sur un fondement de mensonge. Est-ce que la description est bonne? Elle est assez bonne, hein? OK. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Qu'on est des menteurs, oui, mais là, elle nous dit avant tout « mes frères ». OK, on parle aux frères et sœurs, là. « Mes frères ». Qu'est-ce qu'on doit faire? Ne pas mentir. On n'est pas obligé de dire « ah, je te jure sur la tête de mes enfants. » Mais écoute, lui, il est en arrière. Hein? Non, non, on n'a pas besoin de dire ça. Si je t'ai dit oui, c'est oui. Puis si on s'aperçoit qu'on s'est trompé, qu'on aurait dû dire non, qu'est-ce qu'on fait? On s'assume. Mieux vaut une perte que notre oui soit oui et que notre non soit non. Même dans notre passage dans Matthieu, qui dit que votre oui soit oui, tout le reste, c'est profond, hein? Très, très, très profond. Une leçon très pratique dans la vie. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir 36 notaires, 36 ci, 36 ça, des signatures, des témoins, parce que notre société manque de parole. Dans le passé, une poignée de main, c'était suffisant. Aujourd'hui, tu dis, je t'ai dit oui, c'est oui. Mais j'aimerais ça que tu me signes un papier. Hein? Plusieurs fois, Jacques revient sur la parole, la langue. On doit avoir une langue droite. Et quand on se trompe, quand on a menti, on ne fait pas juste demander pardon au Seigneur pour le mensonge, mais quand on compte une pipe à notre frère Richard, par exemple, je dis à Richard, je vais aller voir Richard, je vais lui demander, écoute Richard, je te demande pardon, là, je t'ai menti. La vérité, c'est ça. Vous savez, ça fait deux choses. Ça met des pattes réelles à ce qu'il y a dans notre cœur, ça glorifie Dieu et ça va solidifier les liens entre nous autres. Et ça, c'est pareil dans le mariage. C'est pareil avec nos enfants, et ainsi de suite. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à être des hommes et des femmes d'un oui puis d'un non, et puis il y a plein de choses là-dedans. Prions.